Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.
Bienvenue sur Nous n'avons qu'une terre et merci de votre fidélité. Alors, nous n'avons pas fini avec les problèmes que posent les changements climatiques. La marche vers la décarbonation se poursuit. La guerre autour du pétrole ou de l'enrichissement de l'uranium qui se mène actuellement entre l'Iran et les USA est là pour nous rappeler que quel que soit notre lieu de vie dans le monde, nous sommes quelque peu touchés et quelque peu par otages de ces fossiles. Le pétrole et le charbon, dont nous devons sortir absolument. Depuis plus de 30 ans maintenant, depuis 1992 et le sommet de Rio, de COP en COP, avance la diplomatie climatique. Mais chaque événement mondial est pour nous un moyen de faire le point. Alors vous en avez peut-être assez d'entendre parler de ce sujet, mais sachez qu'il y en a encore pour 50 ans au moins, et il ne faut pas désespérer. Et chaque jour marque une pierre, et chaque jour on avance un peu. Alors cette semaine, eh bien, c'est le rendez-vous de Santa Marta en Colombie qui nous interpelle. Au sorti de la COP de Belém, ce qu'on appelait la COP30 l'an dernier, des pays sont restés un peu sur leur faim. Une demande de sortie des fossiles qui avait été proposée par la Colombie avait été refusée en dernière minute. Et la Colombie a poursuivi avec le Brésil et l'aide des Pays-Bas son travail. Le 26 et 27 avril prochain, 50 pays se retrouvent à Santa Marta pour faire avancer ce sujet fondamental. Alors, ce sont des producteurs, des consommateurs d'énergie qui sont prêts effectivement à œuvrer et à bouleverser un tabou pour sortir des combustibles fossiles. Mais depuis la COP 28 en 2023, 200 pays se sont engagés et on n'avance pas. Alors, Santa Marta sera-t-elle une étape importante ? Créera-t-elle à coup sûr une nouvelle dynamique dont on a besoin ? Marc Tudenham est responsable de l'information au CITEPA et depuis 2004, il assure une veille permanente sur le sujet. Il rédige de nombreux papiers qui rendent compte de l'évolution politique ou scientifique des dernières actualités. Marc, bonjour.
Oui, bonjour Dominique.
Alors, je vais vous laisser compléter un peu l'intérêt que vous portez à ce sujet. Je vous laisse également présenter le CITEPA, c'est-à-dire le centre interprofessionnel auquel vous participez. Et puis, bien sûr, on en arrivera à nos affaires de climat.
Merci. Bon, d'abord, le CITEPA. Alors, nous avons le même âge. Le CITEPA a été créé en 1961. Nous rassemblons aujourd'hui une centaine d'adhérents. En fait, on n'est plus vraiment une structure interprofessionnelle. Nous sommes plutôt une association 1901. Et en fait, nous sommes l'organisme national, on a le statut d'une association, mais l'organisme national mandaté par le gouvernement pour réaliser ce qu'on appelle les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les inventaires d'émissions, c'est-à-dire on calcule, on mesure pas, c'est pas comme la qualité de l'air, on calcule, enfin, pas moi, mais mes collègues ingénieurs, ils calculent les émissions des différents secteurs, que ce soit agriculture, forêt, transport, industrie, etc. Nous avons donc ces inventaires dans le cadre des engagements internationaux et européens de la France. Tous les pays signataires des différentes conventions, qui ont ratifié les différentes conventions internationales, que ce soit climat ou pollution de l'air, donc sont obligés de faire cet inventaire. Et c'est comme ça qu'on voit où on va Donc l'historique des émissions, etc. Nous faisons également des projections d'émissions. Voilà. Ça, c'est
exactement.
Pour le...
Alors là, en fait, c'est votre mission. Et effectivement, oui. Au démarrage, vous étiez plutôt sur la pollution atmosphérique, une action qui était sur l'air, et aujourd'hui, de plus en plus sur le climat. Est-ce que vous venez de nous dire
sur le climat, oui.
Voilà. Est-ce que vous venez de nous dire nous prouve que finalement des gens extrêmement sérieux, des ingénieurs, calculent au quotidien les émissions, ce qui peut nous permettre de répondre que ce n'est pas une histoire rigolote. Absolument. Comme a pu le dire notre ami Trump.
C'est très important que c'est les émissions sont calculées selon les guidelines, selon ce qu'on appelle les lignes directrices du GIEC. Donc pour tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre et pour les polluants, pareil, on a des il y a des groupes méthodologiques, il y a des méthodologies mises en place, donc on suit quand même des consignes officielles. C'est pas chaque pays fait comme il veut. C'est vraiment, on a des guidelines, on a des lignes directrices qu'on suit pour faire des calculs. Et souvent il y a des reviews, on appelle ça. Donc c'est des examens, des évaluations par différents, par la CLUC, par exemple pour la Convention climat, pour vérifier si tout est en règle, etc. Donc c'est extrêmement
en règle par rapport aux engagements qui ont été faits des États.
Oui, c'est ça, pour voir où la France en est exactement, c'est ça. C'est ça l'importance. Alors moi, là-dedans, je ne suis pas ingénieur, donc moi, mon travail, c'est de suivre et évaluer et rendre compte, comme vous dites, de tout ce qui est mise en œuvre des politiques climat internationales. Donc moi, je travaille sur le climat depuis 30 ans, hein. J'ai travaillé pour un bureau d'études il y a très longtemps qui existe encore au Royaume-Uni et en Allemagne, je pense, l'Institut pour une politique européenne de l'environnement, IP2E. Ensuite, j'ai travaillé à l'IFEN, l'Institut français de l'environnement, où je me suis intéressé au sujet climat, énergie, etc. Et ensuite, avec Dominique Dron, qui était la présidente de la MIES, la mission interministérielle de l'effet de serre, et ensuite au CITEPA. Donc je suis au CITEPA depuis 2002. Et donc j'ai mis en place un dispositif, un système de veille des actualités climat et pollution de l'air. Et là, je suis en retraite progressive et je me concentre uniquement sur mon sujet de prédilection, donc le climat international. Et c'est très intéressant. Je suis de près les COP, je fais un journal de la COP, je rencontre au ministère en France, au ministère français de la transition écologique et ailleurs.
Alors, donc voilà. Vous avez donc suivi avec attention toutes les COP. Bon, on en est à la 30e aujourd'hui. Mais finalement, vous êtes celui qui connaît toute la progression qui s'est faite. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu donc de cette question, enfin le réchauffement climatique? Tout le monde maintenant commence à savoir exactement ce que c'est, mais peut-être c'est pas inutile de rappeler quels sont les enjeux.
Oui, en fait, bon, vous savez bien que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre,
anthropique, ça veut dire c'est l'homme,
climatique. Et puis voilà, donc la Convention climat a été signée en 92 et puis ratifiée en 94, entre en vigueur la même année. L'accord de Paris, il y a donc la Convention climat, c'est ce qu'on appelle la législation mère, c'est comme en France une loi, et qui a donné lieu à deux enfants, si je puis dire, donc le protocole de Kyoto, qui n'est plus d'actualité, parce que bon, la période d'engagement s'est terminée, donc en 2020, et donc l'accord de Paris, qui a été adopté lors de la COP21 en 2015, qui est maintenant l'instrument qui est en vigueur. Alors, il faut savoir que la Convention climat rassemble la totalité des parties, dont 198 parties, c'est-à-dire 197 pays, plus l'Union européenne en tant qu'organisation régionale d'intégration économique. Malheureusement, l'année prochaine, en février, bon, les États-Unis vont se retirer. Bon, mais c'est quand même la quasi-totalité des pays du monde. Voilà. Et l'accord de Paris, donc entré en vigueur plus tôt que prévu, rassemble 194 parties, c'est-à-dire 183 pays et l'Union européenne en tant qu'organisation régionale d'intégration économique. Voilà. Donc c'est très important. Et donc l'accord de Paris a fixé plusieurs objectifs, dont un objectif de température, c'est-à-dire de maintenir le réchauffement à 2 degrés Celsius, et si possible en 1,5. Et le 1,5, cet objectif a été rajouté sous la pression des petits États insulaires, parce que pour eux, bien sûr, c'est très important. Voilà. Autant pour les objectifs. Alors les COP. Les COP sont donc les conférences des parties à la Convention climat, et on a la réunion des parties à l'accord de Paris se réunissent tous les ans, donc dans des villes différentes. Alors il y a une rotation par rapport aux 5 régions des Nations Unies. Donc il y a Asie-Pacifique, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Afrique, etc. Et donc il y a une rotation. Donc là, cette année, donc la COP31 va avoir lieu en novembre. Alors cette année, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est sous présidence de la Turquie, mais la présidence des négociations, c'est l'Australie. Alors c'est un compromis, oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, l'Australie et la Turquie n'arrivaient pas à céder la place à l'autre, donc il y avait une espèce d'impasse politique, aucun des deux pays voulait céder la place à l'autre, donc ils ont trouvé un compromis lors de la COP30 à Belém. Et du coup, en fait, c'est la Turquie qui est le président global, mais le président des négociations, c'est donc l'Australie. Voilà.
Bon, alors tout ça, c'est un petit peu de la salade entre États, mais ouais, pour nous qui sommes citoyens, tout cela, ça signifie quoi? Alors exactement, toutes ces conférences, elles servent à quoi?
Malheureusement, les conférences, les COP et les réunions des partis à l'accord de Paris s'embourbent très souvent dans les détails, et donc les processus, les dispositifs, les mécanismes, etc. Bon, les COP ont le mérite d'exister. Et donc, les COP donnent lieu à des décisions qui ont une valeur déclaratoire. Ce n'est pas une valeur juridique. C'est comme l'accord de Paris, c'est un accord hybride, parce qu'il y a des éléments juridiquement contraignants, mais il y a d'autres éléments qui ne le sont pas. C'était pour rallier le plus grand nombre de parties à l'adoption, hein, c'est ça. Donc malheureusement, c'est un peu compliqué. Par exemple, les plans climat nationaux, les NDC, les contributions nationales, comme on dit.
C'est-à-dire ce que chaque pays, doit en fait réaliser pour réduire ses émissions de gaz carbonique.
Oui, c'est ça. Ben, pas que le CO2, mais aussi les autres gaz. Donc, il y a le méthane, le CH4, le protoxyde d'azote, le N2O, et les trois gaz fluorés, donc les HFC, les hydrofluorocarbures, les PFC, les perfluorocarbures, et puis le SF6, le hexafluorure de soufre, qui est utilisé beaucoup pour tout ce qui est informatique, et aussi le NF3, le trifluoril d'azote. Voilà. Donc c'est les gaz fluorés qui sont très puissants, mais ils sont au moins, bien sûr, c'est 80% les émissions, c'est à peu près 75% des émissions, c'est le CO2. Hein. Et c'est le gaz qui reste le plus longtemps dans l'atmosphère, c'est ça. Alors que le méthane reste à peu près 10 ou 11 ans d'après le GIEC. Donc la réduction des émissions de méthane, c'est un levier très important parce qu'on peut avoir des résultats à court terme. Alors que pour le CO2, c'est plus long. Voilà.
Très bien. Donc alors vous avez à partir ce que vous appelez les NDC, donc oui. C'est-à-dire la surveillance qui est faite de, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, les pays s'engagent soit au niveau de leur État, soit comme nous au niveau de l'Union européenne à une certaine diminution de nos émissions. Et donc votre travail, c'est de surveiller pour être sûr qu'on arrive à la COP en bonne et due forme, c'est-à-dire en ayant bien travaillé, en étant un bon élève.
Oui, c'est ça, si on veut, oui. Alors les NDC, en fait, c'est tous les 5 ans, c'est pas tous les ans, c'est tous les 5 ans, et on devait rendre la troisième NDC, ce qu'on appelle la NDC 3.0, l'année dernière. Donc pour l'instant, il y a un très grand nombre de pays qui l'ont fait, mais pas tous. Et il manque deux États du G20, l'Argentine et l'Inde. L'Inde a approuvé, enfin le gouvernement indien a approuvé son NDC, son plan climat national, mais il ne l'a pas encore rendu au secrétariat de la CNUC. Donc voilà. Mais pour l'instant...
Et l'Inde, c'est très important parce que l'Inde, c'est beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, et c'est le troisième pays émetteur après la Chine et les États-Unis. Voilà. Mais alors, force est de constater qu'il y a eu beaucoup d'évaluations faites, mais tout est hypothétique, parce que toutes les NDC établissent les politiques et mesures qu'ils vont mettre en œuvre, et surtout les objectifs de réduction, les objectifs en matière d'adaptation. Mais tout ça, c'est si, parce que pour l'instant, on va plutôt vers 2,8 degrés Celsius à la fin du siècle, si ces NDC sont mis en œuvre. Or, pour l'instant, ils ne sont pas tous mis en œuvre. Donc voilà, c'est très aléatoire. C'est ça le problème. Donc au moins ils existent, ces NDC. C'est une feuille de route pour chaque État, pour chaque pays de suivre. Donc voilà.
Et alors, si on les suit pas, il va se passer quoi ?
Si on ne suit pas, on va plus vers 4 degrés Celsius d'après le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui publie chaque année un rapport qui fait référence, qui s'appelle The Emissions Gap Report, le rapport sur l'écart entre la science et l'ambition, c'est-à-dire entre là où on devrait être en termes d'émissions pour respecter l'objectif 1,5 et de 2 degrés, et là où on sera si les engagements et les objectifs de réduction sont mis en œuvre comme ils doivent l'être. Voilà. Donc vous voyez, il y a une espèce de gap, il y a un écart entre l'ambition et la science. Et donc on est loin du compte, hein, ça c'est sûr.
Oui, on arrive à des projets, des projections plutôt, où on se retrouve avec plus 4 degrés, c'est-à-dire avec des températures qui seront au-dessus de 50 degrés dans certaines villes à certains moments. Et bien sûr, on est dans une situation presque d'invivabilité, quoi, pour le monde.
Oui. Moi, je n'ai pas les détails.
Tout est fait pour qu'on évite d'y parvenir.
Oui, c'est ça. C'est très compliqué parce que tout est supposition, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il y a plusieurs écarts, en fait. Il y a l'écart entre donc la science et l'ambition, mais il y a également l'écart entre l'ambition 2030 ou 2035 et 2050, parce qu'en fait, l'objectif de l'accord de Paris, c'est d'arriver dans la deuxième moitié du siècle, c'est-à-dire entre 2050 et 2100, une stabilisation des émissions et après d'arriver à ce qu'on appelle zéro émission nette, à la neutralité climatique dans la deuxième moitié du siècle. Donc, pour y arriver, il faut quand même commencer à réduire maintenant. Il ne faut pas attendre 2045 pour le faire, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a les jalons 2030, 2035, 2040, etc. Et il y a un autre écart entre l'ambition, ce que j'ai dit tout à l'heure, et l'action, c'est-à-dire la mise en œuvre des mesures prévues par les NDC. Donc, l'effort collectif mondial consenti à ce jour est insuffisant, mais il faut mettre en œuvre ces mesures et politiques et mesures dans les NDC, hein, vous voyez. Il y a une double cohérence entre les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs et les engagements des partis, mais aussi entre ces mêmes objectifs et les actions mises en œuvre pour les atteindre. Donc, c'est très compliqué. C'est un enchevêtrement très, très, très compliqué. Voilà. Mais bon, au moins, ces NDC ont le mérite d'exister. C'est ça qui est important, parce que c'est le guideline, c'est notre feuille de route, enfin, les feuilles de route de chaque État pour y arriver. Voilà.
Bien, alors, là, on vient de voir, donc, dans le cadre des COP, comment les choses s'organisaient, c'est-à-dire quand tous les États du monde sont réunis pour essayer de trouver des solutions. Et bien sûr, vous venez de nous montrer quels étaient les moments qui étaient forts, enfin, ce qu'il ne fallait pas rejeter, comme effectivement la réunion des COP, qui permet quand même d'avancer, comme ces NDC qui nous permettent d'avoir des feuilles de route. Mais en tout cas, de plus en plus, une lassitude semble s'installer, malheureusement, et on voit des pays qui n'en peuvent plus de ces réunions internationales, et c'est ce qui un peu s'est passé pour Santa Marta, c'est-à-dire que finalement, on se retrouve à un moment où des États, on sait que nos problèmes viennent des fossiles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu justement ce que l'on sait de cela, c'est-à-dire que ça a été prouvé. Il y a des gens comme les États-Unis qui effectivement remettent en question notre action humaine contre le réchauffement climatique. Vous en pensez quoi?
Alors, en fait, juste pour quelques éléments de contexte, en ce moment, c'est très compliqué, ça fait 2-3 ans, pour des raisons externes de la Convention climat. Donc, les attaques de Trump, d'ailleurs, l'administration Trump de cette fois-ci est beaucoup plus virulente en termes d'anti-action climat que la première, son premier mandat. Hein. Remise en cause du multilatéralisme et les sciences du climat. Mais en plus de ça, il n'y a pas que ça, hein. C'est les fortes tensions géopolitiques et commerciales grandissantes dans le monde. Vous savez, avec les différentes guerres, les comptes, etc. Donc ça peut... Et puis maintenant, la guerre avec l'Iran, c'est très compliqué. Et en plus de ça, il y a des contraintes budgétaires des États et le montée des populismes, le climato-scepticisme dans les pays du Nord et ailleurs, hein. La crise économique, ce qu'on appelle le backlash écologique, donc une espèce de recul d'ambition et d'étricotage des réglementations. On l'a vu ça en France et ailleurs, hein, même au niveau de l'UE, avec le détricotage progressif du Green Deal, donc le pacte vert, mais pas en entièreté, mais quand même un petit morceau, etc. Donc, c'est très compliqué en ce moment d'avancer avec l'action climat, vu la situation mondiale. Et puis, on voit, avec toutes ces tensions géopolitiques, qu'on est très dépendant des fossiles. Bon.
Alors, à la fois, c'est très compliqué, mais on voit quand même que des États peuvent prendre une initiative, puisque là, à Santa Marta, on se retrouve quand même avec...
J'en venais, hein, oui. Alors, c'est incroyable parce que tout a commencé à New York le 24 septembre dernier. Donc il y avait le sommet climat organisé à l'initiative de Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU. Et à ce moment-là, la Colombie avait annoncé qu'elle allait tenir pour la première fois la première conférence internationale sur l'élimination progressive des combustibles fossiles au mois d'avril cette année, donc à Santa Marta. Bon. Et ensuite, le jour de la clôture officielle de la COP30, donc à Belém, le 21 novembre dernier, la Colombie a formellement annoncé qu'elle allait accueillir cette conférence, mais conjointement cette fois-ci avec les Pays-Bas. Cette conférence de Santa Marta s'appuie sur une déclaration, la déclaration de Belém pour la transition vers la sortie des combustibles fossiles, qui a été signée à Belém par 24 pays, y compris par certains grands pays producteurs de combustibles fossiles, l'Australie, le Mexique, et par plusieurs pays latino-américains et européens, et les petits États insulaires et du Pacifique. Mais la France n'a pas signé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne sais pas pourquoi. C'est quand même étrange. Quand même, il y a des États européens qui l'ont signé, mais pas la France. Et donc, pourquoi cette conférence aussi? Il faut rappeler le contexte de la COP de Dubaï, la COP 28 à Dubaï, donc en 2023, au terme de ce qu'on appelle le Global Stocktake. Donc l'accord de Paris, l'article 14 prévoit tous les 5 ans un grand bilan de l'action climat internationale sans pointer les différents États. Mais alors où on en est aujourd'hui par rapport aux objectifs? Et donc là, il y avait une conclusion, donc il y a une décision phare adoptée à Dubaï. Et dans cette décision, il y avait donc des objectifs, dont un, c'était de parvenir à une juste transition, juste, ordonnée et équitable vers la sortie des fossiles. Et c'est la toute première fois en 28 ans de COP qu'on a eu le mot combustible fossile dans une décision. alors que les combustibles fossiles sont à la base du problème du changement climatique aujourd'hui, avec les émissions de CO2, du pétrole, du gaz et du charbon. Voilà. Donc, c'est cette décision, donc avec le paragraphe 28 de cette décision, qui était à la base de tout ça. Donc, la Colombie voudrait aller de l'avant avec cette conférence, constituer une plateforme politique mondiale pour permettre aux pays de coopérer entre eux sur les stratégies pour réduire progressivement les combustibles fossiles, donc la production et l'utilisation. Parce qu'en fait, il y a
alors là, pardon, je m'excuse de vous couper là, mais est-ce que ça veut dire que un certain nombre de pays, 50 sur 193, ça représente presque un tiers des pays, et non des moindres, puisque vous avez dit, il y a des grands pays et là-dedans aussi, qui sont des gros producteurs, qui se sont lancés dans cette aventure. Et donc, on peut dire qu'on va avoir là quand même un moment extrêmement important. Alors, c'est est-ce que ce moment... Mais c'est très important, donc vous allez nous redire pourquoi c'est très important. Mais est-ce que ce moment va... bon, d'une certaine manière, il remet en cause un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce qu'il prouve qu'on a le droit de s'agacer et qu'on a le droit de trouver que ça ne va pas assez vite. Et...
Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas vraiment ça. Alors, c'est juste qu'il faut, il faut rappeler aussi, je suis désolé, il faut le rappeler, c'est que normalement, enfin, tout le monde, il y avait de grosses attentes à Belém que les partis adoptent une feuille de route vers la sortie progressive des fossiles. Or, faute de consensus, ils n'ont pas fait. Mais le président brésilien a dit, je m'engage à élaborer une feuille de route pour la sortie des fossiles d'ici le prochain COP, mais c'est en dehors des négociations formelles. Et donc, la conférence de Saint-Martin vient dans ce contexte-là et va sans doute alimenter les discussions de la présidence pour la feuille de route sortie des fossiles. Vous voyez,
donc vous vous pensez pas donc que ça remette en question les COP?
Non, ça remet pas en question.
On est d'accord.
Mais quand on regarde sur le site, ils disent que cette conférence n'est pas du tout là pour se substituer au COP et à la CNUC.
Mais ils ont quand même l'intention. Ils ont quand même l'intention de secouer un peu le prunier. Donc, c'est de montrer quand même que ça va bien discuter, mais qu'il est quand même temps de prendre des positions.
Oui, ça va laisser couler indirectement, mais alors c'est sûr que c'est un espace multilatéral de dialogue en dehors du cadre onusien, mais en complément et en renforcement du processus de la CNUC. Donc ce n'est pas une alternative au COP, c'est une première étape pour les pays volontaires qui veulent aller de l'avant. Vous savez, en Europe, on a le traité sur le fonctionnement de l'UE, et là-dedans, il y a une possibilité. Donc l'article 20 de ce traité sur l'Union européenne, une sorte de coopération renforcée. Les pays peuvent se réunir pour aller de l'avant. Pas forcément les 27, mais ça peut être 20 pays ou 3 ou 4 pays. Et c'est à peu près le même système. C'est que ces pays-là, les 54 pays qui vont se réunir du 24 au 29 avril, souhaitent aller de l'avant.
Très
donc
bien.
C'est très bien. Vous
très
voyez
bien, mais
les travaux qui vont en être issus vont alimenter la feuille de route sur la transition vers la sortie des fossiles à laquelle le président brésilien s'est engagé à Belém. Donc c'est ça
mais
qui
on
est
peut,
important.
Bien sûr, mais on peut peut-être espérer que cette initiative, plus la volonté qui s'est exprimée depuis Dubaï, plus ce qui est en train de se passer en termes de conflit aujourd'hui, finalement, permettent quand même de conduire une COP en Turquie qui soit positive, alors que tous les critères que vous avez expliqués tout à l'heure, les crises économiques, le backlash, etc., tout cela nous amenait à quelque chose de très négatif. Donc, en fait, on va avoir peut-être un rééquilibrage. Et le fait que la crise énergétique due au conflit iranien-états-unien fait que quand même les gens se rendent compte que ça n'est plus une parole en l'air, que le réchauffement climatique les touche jusqu'à leur portefeuille quotidiennement. Donc aujourd'hui ça devient quelque chose, la COP n'est plus une affaire d'initiés, n'est plus une affaire d'État, elle devient notre affaire à tous. Comment vous voyez ce qui va se passer à Santa Marta? Il nous reste à peu près 3 minutes.
Alors, c'est très important de vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays importants qui seront absents. Il n'y a pas l'Arabie Saoudite, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie. Et ces trois pays représentent la moitié de la production mondiale du pétrole. Le pays participant qui produit le plus de combustible fossile, c'est le Canada. Donc, il n'y a pas l'Indonésie, il n'y a pas la Russie. Donc, c'est quand même important.
En termes de producteurs, mais en termes de consommateurs, est-ce qu'il n'y a pas un rééquilibrage?
Je ne sais pas, ce qui va se passer, c'est que, il n'y aura pas de résultats à négocier, pas d'annonce majeure, mais cette conférence devrait créer une dynamique politique. C'est ça qui est important, je pense. Construire une coalition, a coalition of the willing, comme on dit en anglais, une coalition des gouvernements qui sont volontaristes, qui veulent aller de l'avant. Et donc, c'est ça qui est important, je pense. Et il y aura donc un dispositif de suivi, comité scientifique, consultatif, etc. Donc, il y aura un rapport aussi qui va sans doute alimenter la feuille de route transition vers la sortie des fossiles du président brésilien. Je pense qu'il y aura des prochaines étapes. C'est pas juste un one-off, c'est pas juste une conférence ponctuelle. Je pense qu'il y aurait des suites. Enfin, j'espère.
Donc, c'est un mouvement important. Donc, il faut être attentif.
C'est très important. Mais, comme je dis, j'insiste, vraiment, c'est pas pour remplacer les COP, c'est donc en complément et pour renforcer, je pense. Je pense que ça va secouer.
Ça, on a très, très bien entendu, je crois, Marc. Bon, maintenant, je pense qu'en tant que consommateur et en tant que citoyen, il nous faut être attentif aussi à ce qui se décide à ce moment.
Absolument.
Puisque ça n'a pas de valeur contraignante ni juridique, mais en tout cas, c'est l'air du temps quand même.
Oui, absolument, absolument. Donc j'ai hâte de voir les conclusions de cette conférence, donc le 29, on verra bien, et les retombées après.
Bien, écoutez Marc, je vous remercie. Donc on va tous être très attentifs aux conclusions de Santa Marta, et dans le cadre de la semaine d'action Amérique latine et Caraïbes qui aura lieu à la MRI, à l'initiative de l'association caraïbéenne, Amérique latine, pardon, une table ronde aura lieu le 26 mai. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine, on se retrouve pour parler un peu des news, de toutes ces news, et on fera, bien sûr, un petit bilan de ce qui se sera passé à Santa Marta. Donc, bon week-end à tous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.